Alors bonsoir à tous, bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. On va la faire un peu plus courte ce soir. On va vous l'expliquer tout à l'heure, mais je vous avais juste. Et puis vous allez devoir prier parce que ma chantre préférée n'est pas là ce soir. Daphné avait un engagement avec le travail ce soir. Donc, c'est moi qui vous conduis dans l'ensemble de l'œuvre avec beaucoup de tremblements et bien des palpitations. Donc, on va juste prier et après ça, on explique comment on passe ce petit moment tous ensemble. Alors, Seigneur, on te rend grâce, on te bénit pour cette occasion que tu nous donnes encore d'être rassemblés, même à distance, à travers le truchement de l'Internet, à travers la technologie. Tu nous permets encore une fois de prendre un temps tous ensemble pour te louer, pour t'adorer et aussi, Seigneur, pour méditer ta parole. On te demande donc, Seigneur, d'être au-devant de nous, d'être au contrôle de toutes les phases de cette rencontre, de toutes les facettes de cette rencontre, que ce soit l'aspect technique, que ce soit, Seigneur, moi-même dans l'enseignement, que ce soit, Seigneur, dans le temps de louange, d'adoration, que tu nous conduises, que tu nous diriges, et que tout cela soit comme un doux parfum pour toi, comme une douce mélodie à tes oreilles. Bénis ma sœur, bénis mon frère, et que ta grâce, Seigneur, repose sur chacun d'entre nous. Nous t'avons prié dans le merveilleux, le précieux et le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue à cette étude biblique du mercredi 8 septembre 2021. Comme on le fait depuis déjà plusieurs semaines, on veut, malgré l'absence de mon épouse, on veut quand même avoir un petit temps de louange. Louange qui va être en fait plus comme une prière, en tout cas je l'espère pour vous, plus comme une prière concernant la thématique qu'on a abordée tout au long du mois d'août et qu'on termine ce soir puisqu'on a parlé encore une fois dimanche dernier du plus grand et merveilleux symbole que la parole de Dieu nous donne ou que la Bible nous donne concernant la parole de Dieu, Christ, la parole faites chair. Donc, juste vous dire qu'on va être un peu plus court ce soir. On sait que c'est soirée de débat au niveau de l'élection fédérale qui arrive dans maintenant 17 jours. Donc, on veut vous permettre à tous ceux qui le voudraient de pouvoir assister au débat de ce soir qui est en français dans le confort de votre foyer. Comme vous savez, l'Église est apolitique dans le sens où nous ne donnons jamais d'instructions pour qui voter, pour quel parti voter. On croit que chacun d'entre nous sommes à même de faire de bonnes décisions, de bonnes réflexions tout d'abord, et surtout de prier pour que le Seigneur nous guide. Et une des façons que vous pouvez utiliser pour vous faire une idée quant aux candidats à soutenir selon votre âme et conscience, c'est justement en écoutant le débat de ce soir. Donc, on va terminer quelques minutes plus tôt, tout simplement pour vous permettre de syntoniser sur la télévision, l'ordinateur ou la radio le débat des chefs pour ce soir. Bien entendu, on vous invite non seulement à prier, que le Seigneur puisse vous guider dans votre choix, que le Seigneur puisse aussi amener des hommes, puisque c'est un renouvellement du Parlement, qu'il puisse amener des hommes et des femmes qui le craignent, même au Parlement à Ottawa. Donc, on vous invitera à prier, bien sûr, rendu le 20, à moins que vous ne le fassiez par anticipation, de vous présenter aux urnes pour mettre votre X ou votre crochet sur la case qui vous semblera la plus appropriée. Donc voilà pourquoi on termine un peu plus tôt ce soir, tout simplement pour vous permettre de pouvoir assister au débat des chefs et vous faire l'idée qui sera convenable pour vous. Sinon, on est quand même là et on est à notre poste et on va commencer par un petit temps de louange. Comme je disais, c'est un temps qu'on veut davantage comme une prière. Deux cantiques qu'on va Essayez d'entonner pour vous ce soir. Ne faites pas attention à ma voix. Ne faites pas attention à l'injustesse, si ça se dit, de mes notes et de ma voix, puisque je ne suis en rien un virtuose du chant. C'est plutôt mon épouse qui sert en ce sens-là. Mais on veut tout simplement prendre un temps pour chanter et prier en même temps concernant la parole de Dieu. Alors, le premier chant qu'on va entonner, c'est ce chant qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Et le deuxième couplet qui va dans le même sens que l'enseignement de ce soir, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. » Et après ça, on prendra une petite pause, changer l'accord, et on ira avec un deuxième cantique. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Allez,
je m'engage à obéir à ta parole. m'engage à obéir à ta parole. Je m'engage à obéir à ta parole. Je m'engage à obéir à ta parole. Je m'engage à
Alors, vous comprenez pourquoi chez nous, c'est Daphné qui chante et pas moi. Mais comme on disait tout à l'heure, on voulait que ce soit plus une prière qu'un chant, puisqu'effectivement, on parle encore ce soir de la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le passage qui a été à la base de notre réflexion, de notre prédication de dimanche. Dans Jean au chapitre 1, je vais lire du verset 1 au verset 14, même si l'essentiel de notre partage va être sur le verset 14. Donc la Bible nous dit dans Jean 1 au verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le verset important, le verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Je répète le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Alors que le Seigneur bénisse sa parole ce soir. Encore une fois, on prend ce verset-là et on le divise en cinq parties. Dimanche, c'est ce qu'on a fait. On a vu, tout d'abord, lorsqu'on a mentionné que la parole a été faite chair, on a vu que la parole de Dieu s'est faite accessible à l'homme et que la parole de Dieu est le fruit du désir de Dieu de s'approcher de l'homme. Lorsqu'on a parlé de la parole qui a habité parmi nous, on a vu que la parole de Dieu est notre seul guide d'instruction qui mène à expérimenter tant la présence de Dieu que la toute-puissance de Dieu. Dans la troisième partie, la parole est pleine de grâce et de vérité. On a vu que la parole de Dieu révèle l'amour absolu de Dieu envers l'homme. Et la parole contient aussi la vérité absolue sur l'homme, sur Dieu et sur la relation entre les deux. La quatrième partie, nous avons contemplé la gloire de la parole. La parole de Dieu seul, comme on l'a vu dimanche, est le texte digne de toute gloire, de tout honneur. La parole de Dieu est le seul texte à contenir et à partager la pleine et totale et complète sagesse de Dieu. Et enfin, dans la conclusion du verset, la gloire de la parole était comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et on a vu que la parole de Dieu était donc unique et incomparable, qu'il n'existe aucun livre, quel que soit l'auteur et aussi talentueux qu'il soit, qu'il n'existe aucun livre qui révèle, qui soit comme la parole de Dieu et qui révèle Dieu comme la parole et comme la Bible, donc, le fait. Donc, on va reprendre ces cinq sections et aujourd'hui, on va aborder la parole de Dieu dans son désir de sauver l'homme. Chacune des sections qu'on va élaborer ou chacune des notions qu'on va essayer d'étayer ce soir va débuter avec la phrase qui dit « La parole dans son désir de sauver l'homme, deux points, voici ce qu'elle fait. » Alors, premièrement, la parole a été faite chair. La parole, bien sûr, c'est le logos, le terme grec qui mentionne la parole, qui veut dire cette parole révélée et immuable de Dieu. Parole qui veut dire non seulement qui était dans le secret de Dieu, qui nous a été rendu accessible, mais de surcroît à cela, parole qui est immuable en ce qu'elle ne change aucunement. Quelle que soit l'époque de l'histoire de l'humanité où on se réfère à la parole de Dieu, les valeurs, les principes, les pensées de Dieu restent les mêmes. Et je l'expliquais de même dimanche plus tôt, c'est par équité envers toutes les générations et envers tout homme que Dieu ne change rien dans sa parole. En fait, quand quelque chose est parfait, on le garde. On ne change pas quelque chose qui est parfait. Et la parole de Dieu, dans son essence, est parfaite. De surcroît à cela, cette perfection s'adresse à tout homme, à toute femme, quelle que soit la condition de celui-ci, quel que soit l'arrière-plan de celui-ci, quelle que soit la culture, la langue, l'époque à laquelle cet homme ou cette femme peut appartenir, la parole de Dieu dans ses vérités, dans ses principes, dans ses enseignements, dans ses recommandations, dans ses conseils et dans ses jugements reste la même, ce qui veut dire qu'il y a équité pour chacun d'entre nous. On nous dit ici toutefois que la parole a été faite chair. Et le terme chair, c'est le terme sarx, S-A-R-X pour ceux qui prennent des notes, qui nous parle d'une nature humaine, d'une créature vivante et d'un corps humain. Et on sait que cette parole a été faite chair à travers Jésus. Jésus, c'est cette parole qui s'est fait homme. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme en tout point et en toute partie de son existence. Il était, oui, à la fois Dieu à 100% et il a été homme, effectivement, à 100%. Et je me suis demandé, mais pourquoi cette parole se devait d'être chair? Pourquoi cette parole a-t-elle eu besoin de se manifester en tant que parole par l'apparence, par l'image de Christ fait homme? En fait, je dirais que la parole, dans son désir de sauver l'homme, a pris la forme la plus abordable pour l'homme. En fait, si Jésus était là pour servir d'exemple et montrer la voie qui mène à Dieu, la voie qui mène au salut, il nous fallait pour nous en tant qu'hommes qui sommes limités dans notre compréhension, limités dans notre entendement, avoir l'exemple concret d'une vie consacrée à Dieu, d'une vie menée pour Dieu, et Jésus a effectivement été cet exemple suprême de celui qui a mené une vie parfaite dans l'ensemble de son existence. Alors cette parole, oui, qui contient les commandements, qui contient les recommandations, qui contient aussi les sanctions de Dieu ou les jugements de Dieu par rapport au péché, à l'iniquité, nous est rendue accessible dans notre compréhension par le fait qu'on a vu Jésus vivre une vie idéale, une vie parfaite, une vie que je dirais exemplaire pour chacun d'entre nous. Donc, lorsqu'on dit que la parole de Dieu s'est approchée, lorsqu'on dit que la parole de Dieu s'est fait chair, c'était dans l'objectif que pour toi et pour moi, nous puissions pleinement comprendre comment effectivement nous vivons pour Dieu, comment effectivement marcher dans sur cette terre et durant cette vie comme enfant de Dieu, comme serviteur de Dieu. Donc, ça a été l'exemple le plus abordable pour nous. Lorsqu'on regarde tout ce qui a été créé, même si dans bien des choses, on domine des parties de la création, mais on ne peut pas comprendre un animal parce qu'on ne fait pas partie du règne animal. On ne peut pas pleinement comprendre une plante parce qu'on ne fait pas partie du règne végétal. Par contre, on peut comprendre les émotions, on peut comprendre le vécu d'un homme parce que nous sommes hommes. Et en regardant Dieu qui s'était fait homme à travers Jésus, c'était pour nous un moyen de comprendre comment vivre en tant qu'enfant de Dieu et comment mener cette vie qui, de la part d'Adam, avait été un mauvais exemple, mais de la part de Jésus, devenait l'exemple suprême et excellent. La Bible nous dit qu'à cause de l'obéissance ou de la désobéissance d'un homme, vous le trouvez dans Romains, à cause de la désobéissance d'un homme, plusieurs ont été condamnés et sont morts. De même, par l'obéissance, par l'acte d'obéissance d'un seul, et là on parle de Jésus, plusieurs ont été sauvés. Et on parle de nous qui avons reconnu dans la vie de Jésus le moyen ou la façon, le mode de vie qui devait être celui d'un enfant de Dieu. On nous dit par la suite que la parole a habité parmi nous. Et on se rappelle, dimanche, le terme « habiter » a été expliqué avec le terme « skinou » ou « skinou », qui veut dire « fixer sa tente » ou « avoir un tabernacle ». En fait, l'idée qui était véhiculée ici, c'était que Dieu s'est établi, Dieu a établi sa demeure. Il n'est pas venu simplement passer vite fait. Il a établi sa demeure parmi nous. La parole, dans son désir de sauver l'homme, s'est établie au sein de l'humanité et demeure encore auprès de chacun d'entre nous aujourd'hui. La Bible, cette parole de Dieu qu'on a étudiée pendant tout le mois d'août, qu'on a essayé d'illustrer avec les différents symboles que la parole de Dieu nous donne par rapport à elle. C'était pour nous, ce désir de Dieu, c'était pour nous cette action de la part du Seigneur de s'établir parmi nous et de demeurer parmi nous. Vous me direz, Jésus n'est plus là, effectivement, mais puisque la parole de Dieu, faite chair, est parmi nous à travers ce livre qu'on appelle la Bible, ce livre demeure encore parmi nous. Certes, dans bien des générations, on a tenté de faire taire ce livre. Dans certaines contrées, on essaie encore aujourd'hui de faire taire ce livre. Mais la Bible nous dit qu'il reste toujours un petit lumignon qui ne peut pas être éteint et qu'on ne peut pas éteindre. Et celui-ci, c'est ces gens de foi, ces frères et ces sœurs qui ont reconnu la Bible effectivement comme parole de Dieu, qui vivent en accord avec cette parole de Dieu et qui en témoignent même dans des contrées où on a voulu faire taire la parole de Dieu. Je crois que c'était John Lennon qui a dit, lorsque les Beatles ont commencé à être très populaires, il a osé prétendre que les Beatles resteraient, mais que la Bible passerait. Les Beatles sont passés, même si certains croient encore que c'est un des plus grands groupes, les jeunes générations n'ont plus nécessairement de point d'attache avec les Beatles. La Bible reste encore aujourd'hui le livre qui a été traduit dans le plus grand nombre de langues différentes et le livre qui a été publié dans un plus grand nombre aussi d'exemplaires. La Bible, même si on a voulu la taire sous certains régimes, on pense à l'époque du régime communiste dans l'ex-URSS, où on a rendu interdite la Bible. Lorsque le mur de Berlin est tombé, un des premiers constats que les sociologues ont fait, c'était qu'il y avait une résurgence de la foi chrétienne. Et lorsqu'ils l'ont expliqué, ils ont été obligés de dire c'est parce qu'il restait en URSS, malgré le régime soviétique et le régime communiste, il restait encore une Église active, des croyants qui maintenaient la foi vivante. On a fait le même constat en Chine lorsque l'Église, pas parfaitement, pas totalement, a été autorisée. Et il semble qu'en Chine, selon les statistiques qui sont tenues, il se convertit plus de 100 000 personnes par jour en Chine. Et on indique que les résultats même de la foi qui y est partagée viennent principalement de ceux qui, pendant toute l'époque de l'obscurantisme qui a sévi là-bas à partir de Mao jusqu'au milieu des années 90 environ, début des années 2000, que toute cette foi qui a été maintenue même dans ce qu'on appelle l'Église souterraine, l'Église underground, fait en sorte que lorsqu'il y a eu un peu plus de liberté, la foi a explosé. Et aujourd'hui, avec plus de 100 000 conversions par jour en Chine. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas taire la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas éteindre la parole de Dieu. Et ici, le verset nous dit qu'elle est venue habiter parmi nous. Donc la parole, dans son désir de sauver l'homme, s'est établie parmi nous et demeure encore aujourd'hui parmi nous. Certains pensaient que la pandémie allait faire taire l'Église. Et en dépit de tout ce qu'on peut penser sur la pandémie, en dépit de toutes les origines qu'on peut accorder à cette pandémie, certains y croient, certains n'y croient pas. Certains pensent que c'est effectivement un complot, d'autres pensent que c'est effectivement une maladie comme on en rencontre tout au long de l'histoire de l'humanité. Peu importe. Le constat était le même au début de cette pandémie. On croyait que le message de l'Évangile allait être tu. En fait, lorsqu'on regarde ce qui se fait, notamment à travers Internet, le message de l'Évangile n'a jamais été autant proclamé qu'il est proclamé actuellement. Et dans le désir peut-être que le diable avait, avec cette pandémie, de taire l'Église, ça aura eu un effet contraire. Et nous-mêmes, en tant qu'Église locale, on peut voir des résultats, puisque tout au long de la pandémie, on a eu des baptêmes. Et qu'il y a encore des gens qui viennent, en dépit des limites, en dépit des circonstances qui sont difficiles, en dépit de la distanciation, de l'éloignement, en dépit d'être obligé de se rabattre sur des technologies pour partager la parole de Dieu et non pas le faire de vive voix ici même dans le local de l'Église. En dépit de tout cela, la parole de Dieu est annoncée. Des âmes viennent à Christ. Des âmes prennent la décision de suivre le Seigneur. Et ce faisant, la parole de Dieu reste et demeure encore active parmi nous. Puis le verset va nous dire, la parole est pleine de grâce et de vérité. Et lorsqu'on parle de grâce, on parle effectivement, comme on l'a mentionné dimanche, on parle effectivement de l'amour absolu de Dieu. Lorsqu'on parle de la vérité, le terme aletheia, qui voulait dire ce qui est véritable en tout aspect. Je vous dirais que pour nous aujourd'hui, la parole de Dieu dans son désir de sauver l'homme, elle va révéler l'état véritable de l'homme et la scission ou la brisure dans la relation entre l'homme et Dieu. Vous ne pourrez pas trouver une explication, vous ne pourrez pas trouver une réalité ou une vérité concernant l'état même de l'homme, à moins que vous n'alliez dans la parole de Dieu. Ce qui vous révèle quel est l'état de l'homme face à Dieu, quel est l'état de l'homme en tant que pécheur, condamné et condamnable, c'est à travers la parole de Dieu. Assurément, ce n'est pas le journal de Montréal qui nous le révèle. Assurément, ce ne sont pas les grandes publications comme le Washington Post, comme le Herald Tribune, ou comme en Europe, Le Monde, Le Figaro ou autre. Le message de l'Évangile, le message sur l'état réel de l'humanité, passe encore aujourd'hui à travers la parole de Dieu. Donc la parole, dans son désir de sauver l'homme, va nous dire la réalité de notre état. Et quelle est cette réalité? C'est que nous avons tous péché et qu'il n'y a aucun d'entre nous qui n'est saint. Et nous avions tous besoin d'un sauveur. Et ce sauveur nous est présenté effectivement comme la grâce qui est venue parmi nous. Cette grâce absolue de Dieu. Dieu aurait pu faire en sorte qu'à travers le péché initial de l'homme, la condamnation éternelle s'établisse et qu'il n'y ait pour aucun d'entre nous une voie de salut. Mais Jésus, qui est éternel, qui était déjà là dans le plan de Dieu, avait déjà été mandaté pour être sauveur et Seigneur pour l'humanité. Donc Christ était le plan de Dieu, Christ était le plan de grâce de Dieu pour nous. Et ce n'est que à travers la parole de Dieu que nous apprenons ce plan de grâce, ces desseins de grâce de la part de Dieu envers nous. En fait, qu'est-ce que nous révèle la parole de Dieu? Elle nous révèle non seulement l'état véritable de l'homme, mais aussi la grâce absolue de Dieu envers l'homme. Vous savez, ce cantique qu'on chante à peu près dans toutes les langues, qui est probablement le chant chrétien le plus répandu, grâce infinie, une grâce sans fin, une grâce totale qui va se manifester lorsque Jésus va effectivement mettre le comble à son amour et qu'il va mourir pour toi et pour moi. Et cette grâce nous est enseignée, nous est révélée, nous est partagée à travers la parole de Dieu. Quatrième point, nous avons contemplé la gloire de la parole. Nous avons contemplé sa gloire. Gloire, c'est le terme doxa. Et on a déjà expliqué dimanche que c'est à la fois une splendeur, une majesté, que c'est à la fois l'état d'exaltation dans lequel la parole doit être, mais aussi c'est une opinion élevée, un jugement ou un précepte qui vient de Dieu. La parole, dans son désir de sauver l'homme, révèle effectivement la majesté incommensurable de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne effectivement que nous ne sommes pas les égaux de Dieu. Le diable a voulu tromper l'humanité et ça a marché avec Adam et Ève en leur disant, regardez, si vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu sait que vous serez comme des dieux. Vous serez égaux à lui. Et ça a été la tentation qui a fonctionné auprès d'Adam et Ève. Et assurément, chez chacun d'entre nous, il reste ce relent du péché qui voudrait faire en sorte qu'on soit égaux à Dieu. La parole de Dieu nous dit que peu importe nos efforts, peu importe ce qu'on peut tenter de faire, qu'il n'y a aucun qui peut se comparer à Dieu. Et la parole de Dieu nous montre aussi la justice parfaite de Dieu. Elle nous explique ce que Dieu appelle péché. Elle nous explique quel est le jugement que Dieu apporte. Elle nous explique ce que Dieu condamne. Et mais lorsque on apprend ce que Dieu condamne, on apprend aussi ce que Dieu bénit. Ça aurait été une justice qui aurait été injuste si on avait juste une partie de l'enseignement. Ça aurait été injuste si Dieu nous avait simplement dit « Je vous condamne et je ne vous montre pas comment être sauvé ou comment profiter de cette voie qui vous mène à moi et qui vous permet d'être sauvé. » La justice de Dieu se manifeste dans ce qu'elle nous enseigne, la parole de Dieu, tout ce que Dieu condamne, mais aussi comment l'homme peut être racheté, comment l'homme peut être sauvé, comment l'homme peut être pardonné. Alors toi qui m'écoutes ce soir, peut-être que c'est la première fois que tu entends ces mots. J'aimerais te dire une chose. Moi, comme toi, nous avons péché. Et de par ce péché, nous sommes condamnés. De par ce péché, nous sommes destinés à une éternité loin de Dieu dans la condamnation éternelle. Mais Dieu t'a aimé. Dieu nous a aimés. Et Dieu a fait en sorte que son Fils, Jésus-Christ, vienne, cette parole qui a été faite chair, vienne sur cette terre et qu'il soit condamné à ta place et à ma place. Et comme je citais tout à l'heure, par l'acte d'obéissance d'un seul, plusieurs ont été sauvés. Et l'acte d'obéissance de Jésus, ça a été qu'il a accepté de mourir pour toi, en prenant ta faute sur ses épaules, en prenant ma faute sur ses épaules, et en acceptant la condamnation qui aurait dû être tienne ou mienne. Mais le merveilleux dans l'histoire de Jésus qui meurt, c'est surtout que le troisième jour, il ressuscite. Et le salut s'opère dans le fait qu'il est mort et qu'il est ressuscité des morts, remportant la victoire sur le péché, sur le diable et sur la condamnation. Et parce qu'il a payé ce prix pour toi et pour moi, si tu viens à Christ et que tu confesses qu'effectivement tu es pécheur, que tu confesses qu'effectivement tu as besoin d'un sauveur, et que tu confesses effectivement que Jésus, tu lui donnes la seigneurie sur ta vie, le rôle de seigneur, de maître, de propriétaire sur ta vie. La Bible nous dit que celui qui confessera que Jésus est Seigneur sera sauvé. Alors cette opportunité est aussi pour toi aujourd'hui. Sa parole, dans son désir de sauver l'homme, nous a révélé la majesté incommensurable de Dieu, la perfection de Dieu, mais aussi nous révèle sa justice qui est parfaite. Et en terminant, le verset nous dit la gloire de la parole était comme la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire du Fils unique venu du Père. On disait dimanche que la parole de Dieu est incomparable et unique. Et assurément, vous ne trouverez pas un livre comme la parole de Dieu. Vous ne trouverez rien sur cette terre qui vous conduit au salut, si ce n'est qu'à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle dans son désir de sauver l'homme, nous révèle l'incomparable identité du Sauveur, mais aussi l'œuvre unique qu'il a accomplie. J'aimerais te dire que la Bible nous dit qu'il n'y a qu'une seule voie qui mène à Dieu, et c'est à travers Jésus. Les hommes pourraient essayer de te convaincre que par tes efforts, par tes actions personnelles, par tes décisions personnelles, tu peux arriver au salut. La Bible nous dit que nous ne sommes sauvés que par une seule voie, une unique voie, qui est Jésus. Certains me demandent parfois pourquoi, si je fais des efforts, pourquoi le salut ne peut pas m'être donné par mes efforts? Tout simplement parce que ça serait injuste. Parce que les efforts que tu fais sont peut-être durs et difficiles pour toi, mais peut-être que pour ton voisin, la chose est très facile. Prenons un exemple. Disons que pour être sauvé, il fallait courir un marathon. On s'entend que ce n'est pas tout le monde qui peut courir un marathon. Et il y en a pour qui courir un marathon va être l'exploit d'une vie. Et il y en a d'autres qui semblent avoir ça dans leur génétique même, qui fait en sorte qu'ils se mettent à courir et qu'ils ne suent pas, qu'ils ne s'essoufflent pas, et puis 41 kilomètres viennent de passer en quelques heures, et ils ont terminé. Ça serait injuste si le salut dépendait de quelque chose qui fluctue d'une personne à l'autre. Alors pour une justice parfaite, ce salut devait dépendre d'un seul qui allait mener ce que personne d'autre ne pouvait mener, d'un seul qui pouvait faire un acte qu'aucun autre ne pourrait faire. Jésus est venu sur cette terre, a refusé la tentation, a fait fi de la tentation, a mené une vie parfaite et est mort injustement dans sa perfection pour toi et pour moi. Et le salut ne peut être atteint qu'à travers la mort de Jésus et sa résurrection 3 jours plus tard. Donc la Bible effectivement nous révèle l'identité du Sauveur et la Bible nous révèle l'œuvre qu'il a eu à accomplir pour toi et pour moi, afin d'être sauveur. Alors ce soir, j'aimerais juste prendre un moment pour prier. Oui, on a parlé de la parole de Dieu, et si tu Et chrétien, si tu étudies la parole de Dieu, assurément ce qu'on a mentionné ce soir, c'est un rappel. Tu devrais savoir tout ce qu'on a mentionné ce soir. Mais un rappel, parfois, c'est bon. Un rappel, c'est même très souvent bon. Au moins pour qu'on puisse prier et rendre grâce à Dieu du salut qui nous a été accordé. Alors, je prie effectivement qu'à travers les prochaines heures, à travers cette nuit, à travers tes temps où tu vas prier tout à l'heure, que tu puisses rendre grâce à Dieu pour le salut que tu as reçu, à travers ce que Jésus a accompli, sa mort à la croix et sa résurrection. Mais ce soir, je ne voudrais pas passer ou fermer cette rencontre sans prendre un temps pour prier avec quelqu'un qui n'aurait jamais donné sa vie à Jésus, qui ce soir serait confronté avec le message du salut qui lui dit « Regarde, tu es pécheur et tu as besoin d'un sauveur. Et Dieu t'a pourvu un sauveur et c'est Jésus. » Si effectivement tu veux, comme la Bible dit, confesser ton péché et confesser que tu donnes ta vie, que tu donnes ton existence à Jésus pour qu'il soit Seigneur sur ton existence, alors j'aimerais t'inviter à prier avec moi. Mais je comprends que ce n'est peut-être pas naturel chez toi. Ce n'est peut-être pas une chose que tu fais de façon innée. Donc je vais juste t'inviter à prier avec les mots que je vais prononcer. Simplement, là où tu es à la maison, tu peux répéter ces quelques mots. Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. J'ai entendu ce que Florent a partagé. Et je comprends que je suis pécheur. J'ai péché contre toi. Et à cause de mon péché, je suis condamné. Mais merci de ce que, à la croix du calvaire, tu as donné ta vie pour moi. Je comprends que tu as pris mon péché sur tes épaules et tu as payé le prix pour moi. Je comprends que tu m'as aimé à un tel point où tu n'as pas refusé de payer ce prix. Jésus, pardonne-moi. Pardonne mon péché. Pardonne ma vie qui a été menée jusqu'à présent sans prêter attention à toi. Qui a été menée sans faire attention à ta volonté. Florent nous a dit ce soir que si on confesse que tu es Seigneur, nous serons sauvés. Alors Jésus, je te demande d'être le Seigneur sur ma vie. Je te donne ma vie pour que tu en fasses ce que tu croiras bon. Fais comme tu veux. Opère comme tu veux. Que toute ma vie t'appartienne. Je te donne mon passé qui n'est pas reluisant. Je te donne mon présent avec tous mes manquements et je te donne mon futur pour que tu me mènes où tu voudras et que tu m'utilises comme tu le voudras. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Je reçois le pardon de mes péchés aujourd'hui et je reçois le salut que toi seul pouvais me donner. J'ai prié dans ton nom, Jésus. Amen. Alors, mon ami, ça a été la meilleure décision que tu pouvais prendre si effectivement tu as fait cette prière avec nous ce soir. Je vais simplement prier pour clore ce temps. Comme on a dit, on terminait un peu plus tôt aujourd'hui pour vous permettre de vaquer à une activité importante en tant que citoyen. Donc, on va juste prier pour clore ce moment. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore davantage pour ceux qui, à la maison, aujourd'hui, ont pris une décision à ton égard, confessant leur état de pécheur, confessant leur besoin d'un sauveur et recevant le pardon pour leurs péchés, leur iniquité. Merci Seigneur parce que ta parole nous dit qu'il y a beaucoup de joie au ciel pour un pécheur qui se repent. Et assurément que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans les prochaines heures, ou que ce soit même dans les prochaines années, lorsque quelqu'un écoutera cet enseignement et qu'il prendra une même décision, qu'il fera une même prière qui a été faite ce soir, il y aura encore une fois beaucoup de joie dans le ciel. Alors je bénis chacune des personnes qui ont fait cette prière ce soir. Je scelle cette prière par ta toute-puissance et par ton sang précieux. Et je demande, Seigneur, que rien ne puisse venir altérer cette décision. Conduis, Seigneur, nos amis dans le chemin qu'ils entreprennent aujourd'hui. Permets-leur, Seigneur, de te découvrir encore davantage. Permets-leur, Seigneur, là où ils sont, de s'assembler avec d'autres frères et sœurs dans une église où ils pourront entendre ta parole et recevoir, Seigneur, l'enseignement pour vivre une vie qui t'est agréable et qu'ils puissent croître et cheminer sous ta bénédiction et ton approbation. Nous bénissons ce moment que tu nous as donné. Merci Seigneur pour chacune des personnes qui étaient présentes. Garde-nous dans le restant de cette soirée et qu'en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Merci Jésus d'avoir entendu, d'avoir agi, d'avoir répondu à nos prières. Nous t'avons prié dans ton nom Jésus. Amen. Alors encore une fois, merci d'avoir été là. On vous rappelle que pour assister à l'assemblée de dimanche en présentiel, vous pouvez encore vous inscrire. Il y avait congé ce lundi, donc les inscriptions rentrent un peu plus lentement, mais ne tardez pas, ça va se remplir. Donc, vous pouvez soit écrire au secrétariat de l'Église à travers le courriel, c'est pas Facebook, c'est pas Messenger, on précise, c'est vraiment le courriel. Sinon, vous appelez au numéro de l'Église et vous laissez un message qui nous indique votre nom, le nom de toutes les personnes qui vont vous accompagner. Il suffit qu'elles soient âgées de plus de 6 ans. Et sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse, et on se retrouve demain pour la bénédiction matinale. Au revoir tout le monde, bonne soirée.